Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Prenez votre Bible et examinons le deuxième chapitre de Matthieu. Matthieu, chapitre 2. Quel moment merveilleux ! Nous sommes en train de vivre dans le livre de Matthieu. Le message que véhicule votre présence ici avec une telle attente, et vraiment une joie pour mon cœur. C'est juste, en fait, ce livre va continuer de s'améliorer, et de s'améliorer tandis que nous avançons, parce que nous allons construire un carnet de compréhension de plus en plus profond, qui enrichira chaque passage. C'est tout simplement un formidable, formidable livre. C'est véritablement le coup d'envoi de l'intégralité du Nouveau Testament, avec l'application placée par le Saint-Esprit au tout début du Nouveau Testament. Comme vous le savez tous, le thème du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Il constitue le thème du Nouveau Testament. Il est plus particulièrement le sujet des quatre évangiles, tels qu'ils sont connus, qui commencent le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc et Jean. Chacun de ces évangiles, chacun de ces auteurs des évangiles présente Jésus-Christ d'une manière unique. Bien que les quatre couvrent sa vie, ils le font dans des styles très très particuliers, et à partir d'une perspective très très singulière. Dans Matthieu, il est le souverain qui vient régner et gouverner. Dans Marc, il est le serviteur qui vient servir et souffrir. Dans Luc, il est le Fils de l'homme qui vient partager et sympathiser. Dans Jean, il est le Fils de Dieu qui vient révéler et racheter. Et chacun des évangélistes aborde la personne de Jésus-Christ d'une manière très spéciale. Et il y a un merveilleux mélange, comme vous l'avez remarqué quand je l'ai parcouru. Dans Matthieu, il est le souverain. Dans Marc, il est le serviteur. Remarquez le contraste ultime. Il est le souverain. Il est le serviteur. Deux extrêmes. Et vous parvenez ensuite à ce même genre de contraste extrême dans les deux derniers. Dans Luc, il est le Fils de l'homme. Et dans Jean, le Fils de Dieu. Deux opposés absolus, homme et Dieu. Souverain et serviteur. Les dimensions de Jésus-Christ remplissent donc tout l'espace entre les deux extrêmes, dans les deux cas, le Dieu souverain et le serviteur humain, et tout ce qui est entre les deux qui remplit tout ce qu'il est. C'est le principe derrière la diversité des quatre évangiles. Nous savons que Matthieu présente Jésus-Christ comme roi, comme souverain. Tout dans Matthieu se concentre sur sa majesté, sa souveraineté, sa grande personnalité en tant que dirigeant, celui qui a le droit de régner, le Messie. Celui qui est oint, le roi promis. En fait, la phrase d'ouverture de Matthieu vous donne la clé. Rappelez-vous dans le chapitre 1, verset 1, le livre de la généalogie de Jésus-Christ, le fils de David, le fils d'Abraham, le livre de la génération de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et naturellement, David était le grand roi. David est celui qui a initié la lignée royale. Ainsi donc, Matthieu, dès le départ, met l'accent sur le fait que Jésus était issu de David. Il prend son origine en Abraham, pour ce qui est de la race juive, et passe à travers la lignée de David, ce qui constitue son droit à régner et à diriger. Le début de cet évangile est donc unique à Matthieu. Aucun autre évangile ne commence de cette manière. Matthieu débute de cette manière parce qu'il le présente comme roi. Matthieu suit donc la lignée du Seigneur depuis Abraham, en passant par la ligne royale de David. Comme je viens juste de vous le dire, Marc le présente comme serviteur. Et parce que Marc le présente comme serviteur, le livre de Marc ne comporte absolument aucune généalogie, étant donné que la lignée d'un serviteur est sans importance. Il n'y a par conséquent aucune généalogie dans Marc. Et Luc le présente comme fils de l'homme. Et puisque Luc le présente comme étant le fils de l'homme, le livre de Luc remonte sa généalogie au tout début et commence avec Adam. Luc voudrait en effet que nous sachions qu'il est un homme tiré des reins du premier homme, Adam. Et Jean, le quatrième évangile, qui présente Christ comme le Fils de Dieu, ignore, contourne toute généalogie humaine et déclare tout simplement « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Et il retourne donc immédiatement dans l'éternité passée et établit l'essence éternelle du Christ. Vous voyez donc que chacun des évangiles, selon l'emphase visée, ajuste sa généalogie. Nous voyons ainsi dans Matthieu qu'il est le Messie roi, il est le souverain oint, et pour cela, il nous est parvenu à travers la lignée de David. Nous avons suivi le chapitre 1, et nous avons vu que la ligne royale passe par David et descend jusqu'à Joseph et Marie. Et Jésus est né, et il est né avec le droit de régner. Si les Juifs de cette époque avaient eu un roi, Jésus-Christ aurait été roi d'Israël, de par sa naissance. Il était de cette lignée, et c'est ce sur quoi le chapitre 1 met l'accent, Matthieu établissant qu'il est roi. Et nous avons ressorti tous les détails jusqu'à la naissance virginale. Dans chaque petit détail, il y a cette idée qu'il a le droit de régner sur le trône de David. À présent que nous avons établi qu'il est roi par sa lignée, Matthieu insiste à nouveau au chapitre 2 qu'il est roi, du fait qu'un certain peuple lui a rendu un hommage royal. S'il est roi, nous dit Matthieu, cela devrait se voir dans sa généalogie. Il devrait être un enfant de roi. S'il est roi, alors cela devrait se voir par la manière dont les gens lui répondent. Et ainsi, au chapitre 2, Matthieu nous raconte l'histoire de certains sages, qui sont venus proclamer que Jésus était en effet roi, et se sont prosternés à ses pieds, et l'ont adoré en tant que roi. Cela aussi fait partie de l'emphase de Matthieu. Il est roi en vertu de sa généalogie. Il est roi en vertu de la majesté royale qui a été démontrée, et acceptée, et honorée, et révélée par l'œuvre et l'effort de ces sages qui sont venus et ont apporté certains présents. À présent, qu'avons-nous appris au sujet des sages? Il y a des choses fascinantes que nous nous devons de savoir à leur sujet, et nous les avons déjà couvertes. Nous n'allons pas y retourner. Je vais juste très brièvement vous rappeler certaines choses. Vous remarquerez qu'il est dit au verset 1 du chapitre 2. Voici, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Le terme rendu par sage constitue un mot intraduisible. C'est le mot mage. M-A-G-E. C'est tout simplement la désignation d'une tribu de sacerdoces héréditaires parmi les gens que l'on connaissait comme les Mèdes. Les Mèdes étaient un grand groupe de ce peuple. Il existait plusieurs tribus parmi eux. Et l'une d'entre elles était la tribu mage. Et il s'agissait d'un sacerdoce héréditaire. C'était de très hauts fonctionnaires qui possédaient le statut de prêtre parmi les Mèdes, tout comme les Lévites étaient sacrificateurs parmi les Juifs. Ils se sont élevés grâce à leur sagesse, en vertu de certains pouvoirs occultes, grâce à certaines capacités astrologiques et astronomiques qu'ils avaient. Ils ont été promus à des positions de conseillers de roi et des cours de Babylone, de la Perse et du pays Mède. Ils appartenaient à une classe sociale élevée. Ils ont occupé des positions si privilégiées qu'aucun roi n'a jamais accédé au trône de l'Empire perse ou parthe sans avoir été formé dans leurs lois connues comme les lois des Mèdes et des Perses, et aucun roi n'a jamais été couronné sans leur approbation. Ils étaient donc, comme nous l'avons vu, les faiseurs de monarques officiels du Grand Empire de l'Est d'Israël. Identifier et couronner les rois était leur spécialité. Ils étaient présents dans les cours royales depuis des années et des années et des années. Ils étaient dans les cours royales depuis des années, voire des siècles. Et ils étaient les faiseurs de monarques officiels de l'Orient. Et c'est si important que ces faiseurs de rois orientaux et reconnus se soient effectivement rendus à Bethléem pour honorer celui qui est né, le Seigneur Jésus-Christ, et l'honorer en tant que roi. Matthieu exprime donc encore son point de vue. Il est roi de par sa lignée. Il est roi en vertu de la reconnaissance. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il s'agit d'une reconnaissance venant des païens plutôt que des juifs, des faiseurs de rois officiels issus de l'Orient. Et je pourrais ajouter cette note pour vous rappeler. Vous vous dites, mais où ont-ils bien pu trouver l'information au sujet de Jésus? Et je vous ai dit qu'en 586 avant Jésus-Christ, plus de 500 ans avant la naissance du Christ, Israël avait été en captivité à Babylone. Souvenez-vous, Israël a été conduite en captivité à Babylone, dans cette partie du monde. Et pendant qu'ils y étaient, les Juifs ont dit à ces gens, ces Babyloniens, ces Mèdes et ces Perses, qui étaient tous mélangés dans cette région. Ils leur ont parlé du roi qui allait naître. Et en fait, un de ces Juifs a été promu à une position de grande notoriété. De qui s'agissait-il? Daniel. Et Daniel, est-il dit dans Daniel 5, verset 11, est devenu le chef des mages. Et assurément, ce grand prophète de Dieu leur a parlé du roi à venir. Ils étaient donc préparés. Ils cherchaient. Et pendant des siècles, ils ont attendu que ce grand personnage monte sur scène. Et ils avaient transmis l'information. Et quand le moment est venu, ils étaient prêts à le voir comme roi et à le reconnaître. Nous avons cependant ajouté une autre note que j'aimerais juste vous rappeler. Il y avait deux grandes puissances mondiales à cette époque. La puissance orientale était cet empire perse émergent, ou empire parthe, comme on le désignait alors. Il s'agissait d'une puissance émergente dans un sens. Bien qu'à un moment, ils aient été la grande puissance du monde. Ils essayaient en quelque sorte de s'affirmer à nouveau. Et la grande puissance occidentale était qui ? Rome. Et Rome dominait vraiment tout, sur tous les plans. Ainsi, à l'ouest, l'ouest du territoire d'Israël, tout ce grand continent européen et ailleurs, Israël inclus, ainsi que tout ce qui se trouvait à l'est d'Israël, les Romains dominaient. Cependant, l'est conspirait sans cesse, cherchant constamment à susciter des rébellions, essayant toujours de démarrer des petites guerres ça et là. Et il y avait donc cette grande hostilité entre l'Orient et l'Occident. De ce fait, l'Empire oriental était à la recherche d'un roi. Ils avaient un roi du nom de Phra Hatès IV, qui a été destitué, parce qu'il était incompétent, et ils étaient en quête d'un roi. Ils cherchaient un roi, et lorsque ces sages sont arrivés, ou alors ces mages, ils ont vraiment eu l'impression qu'ils avaient enfin trouvé le monarque qu'ils recherchaient. Peut-être est-ce celui qui sera capable de prendre les rênes du pouvoir pour être le roi invincible, dont nous avons besoin pour nous mener contre les Romains et nous permettre de récupérer le monde que nous avions conquis jadis. Il y avait eu une époque pendant laquelle les Babyloniens et les Médo-Perses avaient dirigé le monde, et ils étaient donc à la recherche d'un roi. Par ailleurs, je crois que ces mages recherchaient beaucoup plus qu'un roi. Je pense qu'ils craignaient vraiment Dieu, et qu'ils ne se sont pas contentés de voir l'aspect politique de la chose. Je pense qu'ils y ont également vu cette facette religieuse. Je pense qu'ils étaient en train de reconnaître qu'il s'agissait d'un acte inhabituel de Dieu, que de faire venir le roi qu'ils avaient oint, celui qui avait été annoncé dans les prophéties de l'Ancien Testament. Je pense donc qu'ils avaient des ambitions politiques à l'esprit, mais également des aspirations spirituelles. Ils sont donc arrivés quand ils ont su que le roi allait naître, lorsque Dieu le leur a révélé, à travers le merveilleux éclat de la gloire, Shekinah dans le ciel oriental. Ils ont évidemment relié cela aux Écritures que Daniel et les autres Juifs leur avaient enseignées. Et ils ont immédiatement fait leur sac pour se rendre à Jérusalem, en se disant qu'il s'agissait peut-être du roi politique qu'ils attendaient, et assurément le leader, le dirigeant spirituel dont Daniel et les autres avaient parlé pendant tant de siècles. Et ils sont donc arrivés à Jérusalem, un groupe de faiseurs de monarques officiels, à la recherche d'un nouveau roi. Et c'est vraiment ce que Matthieu veut vous faire voir. Jésus-Christ est roi. Et ces faiseurs de rois orientaux dont le travail consistait à identifier les rois le savaient, et au sens propre. Ces gens étaient les prémices des païens qui allaient venir à Christ. Et soit dit en passant, le monde juif ne semblait pas du tout comprendre ce qui se passait, ce qui est conforme aux Écritures, parce qu'il est dit qu'il est venu chez les siens, et les siens quoi, ne l'ont point reçu. Maintenant, avec tout cela en place, nous examinons les cinq actes de la pièce qui se joue au verset 1 à 12. Regardons-les. Nous avons d'abord vu l'arrivée, et nous allons prendre une minute pour la revoir. Nous avons vu l'arrivée au verset 1 et 2. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile. Et vous vous souvenez que je vous ai dit que cela signifie en réalité son éclat, sa Shekinah, sa gloire, en Orient. Et nous sommes venus pour l'adorer. Ils savaient donc qu'il était le roi. Et ils étaient venus pour l'adorer en tant que roi. Tel est le grand témoignage de Matthieu. Voici le peuple des non-juifs, les plus grands fonctionnaires de l'Orient, les faiseurs de monarques du monde, et ils l'identifient comme roi. Pouvez-vous imaginer la dévastation que l'évangile de Matthieu a causée dans le monde juif, quand il a finalement été affiché aux alentours de l'an 50, et qu'ils ont commencé à lire ces choses, à savoir que celui qu'ils avaient crucifié avait en fait été identifié, reconnu, par les faiseurs de monarques officiels de l'Orient comme roi, comme étant le roi que Dieu avait promis. Matthieu a véritablement écrit des paroles dévastatrices pour celles des personnes qui étaient encore là et qui s'étaient déjà débarrassées de Jésus-Christ au moment où il écrit cet évangile et qu'il leur dit « Il était un roi, il était le roi ». Et les historiens disent qu'à leur arrivée, il n'était pas seulement trois individus qui arrivent en ville, sur leurs vieux chameaux comme sur les cartes de Noël. Nous ignorons combien ils étaient. Pour certains, Ils devaient être 12, et même plus. Mais je ne vais pas me déranger à jouer aux devinettes, parce que la Bible ne donne pas cette information. Cependant, un groupe de ces fonctionnaires, faiseurs de monarques, est entré dans la ville avec leurs chapeaux coniques et pointus, qui s'accrochaient là-haut dans l'air, avec de larges rabats, qui descendaient tout en bas, en dessous de leurs mentons, et ils avaient de grandes robes qui traînaient. Ils montaient des chevaux persans, et les historiens nous disent qu'ils étaient accompagnés par des troupes d'élite de l'armée perse. Et quand ils sont arrivés dans la petite ville de Jérusalem, croyez-moi, on a entendu parler d'eux. Ils ont fait la une de l'actualité. C'était un formidable groupe. Ils avaient vu le signe du Fils de l'homme, et ils étaient venus pour l'adorer. Adorer signifie, littéralement, proskuneo, qui veut dire se baisser pour embrasser. Il s'agit d'un mot qui fait allusion à la manière dont on rendait hommage à un monarque, à un souverain. On se baissait pour embrasser son pied. Le terme proskuneo a fini par signifier une attitude intérieure d'adoration ou de culte à quelqu'un de plus élevé que soi. Ils sont venus adorer. Au fait, une chose intéressante. Le mot proskuneo signifie embrasser les pieds d'eux ou se baisser pour embrasser ou encore embrasser avec révérence. Quand le Nouveau Testament emploie ce terme, c'est toujours pour quelque chose qui est réellement ou qui est censé être divin. Vous vous rappelez quand Jean a essayé d'adorer l'ange dans l'Apocalypse et que l'ange lui a dit « Lève-toi, ne me proskuneo pas. Proskuneo Dieu, il est le seul qui mérite une telle adoration. Qui tel a écrit une si merveilleuse série d'études bibliques sur le grec, une œuvre incomparable. Dit ceci, le proskunesis, proskuneo des sages, constitue véritablement une offrande au souverain de l'univers. C'était un terme réservé à la divinité. Et lorsqu'ils sont arrivés, je crois, qu'ils ne l'ont pas seulement vu au verset 2 comme un roi des Juifs, sur le plan politique, mais ils l'ont également vu comme le souverain du monde. Ce qui signifie qu'ils ont regardé au-delà de l'humanité. Ils ont vu la divinité. Et il y avait un terme, Matthieu l'a employé ici, qui n'était employé dans les Écritures que lorsque quelque chose était offert à un dieu, que ce soit volontairement ou inconsciemment. Il s'agit en fait d'un dieu. Le mot est réservé au dieu. À vrai dire, Matthieu renforce l'usage de ce terme plus tard, comme nous le verrons dans Matthieu 4, dans l'expression de Satan. Parce que Satan demande au Christ s'il veut bien se prosterner, et le proskuneo, et Christ refuse et dit « Cela est réservé à Dieu et à Dieu seul ». Je crois que les mages ont identifié le roi, mais au-delà de l'aspect politique, il me semble convenable de dire qu'ils ont probablement reconnu Dieu, et sont venus adorer beaucoup plus qu'un roi. Ils sont venus adorer loin que Dieu avait envoyé, celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Nul autre que le surnaturel Seigneur Jésus-Christ. Telle est donc l'arrivée. Nous avons vu ensuite l'agitation. Au verset 3, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Eh bien, nous pouvons le comprendre. Et tout Jérusalem avec lui. Il était le roi en place. Et ses types arrivent en ville et se mettent à dire « Où est le nouveau roi des Juifs ?» Et sa réaction est « Quoi ? De quel nouveau roi s'agit-il ? » Et quand ils sont arrivés avec tous leurs problèmes, et ils savaient qu'ils étaient les faiseurs de rois officiels perses. Ils ne pouvaient que les imaginer retrouver cet individu, le couronné roi, et voir cette personne se lever pour occuper le trône de l'Empire parthe, et balayer ensuite l'Occident pour livrer bataille là, même sur le territoire d'Israël, pour faire d'eux des victimes. Et Hérode, qui était édomite et édomien, et qui avait reçu son job du gouvernement romain, parce qu'il avait griffé et gratté et conspiré, et tué et assassiné, et abattu pour se frayer une voie vers une certaine puissance politique, était paniqué parce qu'il sentait bien qu'il irait jusqu'à perdre son poste, bien qu'il ait été âgé de 70 ans et déjà presque malade à en mourir. Il a eu peur. Sa jalousie, sa suspicion et sa peur l'agitaient. Il était troublé. Le terme veut dire agité. Il était vraiment secoué, et tout Jérusalem avec lui. Et la dernière fois, je vous ai dit que la raison pour laquelle Jérusalem était secouée, c'est parce qu'ils savaient qu'il était fou et qu'ils allaient souffrir. Vous vous souvenez que je vous ai dit ce qu'il avait prévu pour sa mort. Il a dit « Personne ne se lamentera à ma mort. Alors prenez toutes les meilleures personnes du pays d'Israël, toutes les meilleures personnes qui sont issues de la ville de Jérusalem. Rassemblez-les, et dès que je mourrai, tuez-les toutes, afin que la ville soit en deuil à ma mort. » Voilà le genre d'individu qu'était Hérode. Ils étaient donc paniqués, parce qu'ils savaient qu'ils allaient subir les conséquences s'il était mis en colère, et c'est effectivement ce qui est arrivé, parce que peu de temps après cela, il a fait tuer tous les bébés âgés de moins de 2 ans qui se trouvaient à Bethléem et la région environnante. Ils avaient des raisons d'être troublés, et Hérode était donc agité. Reprenons donc là où nous nous sommes arrêtés la dernière fois au verset 4. 2 semaines, 3 versets. Nous ferions mieux de prendre la route, parce qu'il y a 28 chapitres dans ce livre. Verset 4. Hérode devait donc faire quelque chose. Il est par conséquent dit au verset 4. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. N'est-ce pas intéressant? C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Il leur a demandé où qui devait naître, le Christ. Vous savez, Hérode lui-même était conscient qu'il s'agissait de beaucoup plus qu'un roi humain. Il savait qu'il était question du Messie, celui qui est oint. Il a fait le lien dans son esprit. Il vivait à une époque où l'espoir d'une délivrance à travers l'arrivée et l'œuvre du Messie promis habitait les cœurs et était sur les lèvres de plusieurs. Et il savait que le roi des Juifs et le Messie d'Israël étaient 2 en 1. Il le savait. Il savait qu'il y avait beaucoup plus que de l'humain dans cette histoire. Il savait qu'il y avait de la divinité dans l'affaire. Lui, tout comme les sages, le savait. C'est étonnant que sa réaction ait été si différente, n'est-ce pas? L'un décide d'adorer, tandis que l'autre prend la décision d'assassiner. Il panique et se met en colère. Il reste fidèle à son esprit de conspirateur, et il est beaucoup trop malin pour tuer les mages, et probablement trop impuissant, parce qu'il y avait probablement 1000 soldats perses, tandis que sa propre armée était en déplacement sur une autre escarmouche. Il avait peu de choix, et il ne voulait pas les tuer de toute façon, parce qu'en tuant les mages, il aurait tué ses sources d'informations au sujet de l'enfant. L'enfant, qui était un potentiel roi, serait resté inconnu, sain et sauf. Et puis, de toutes les manières, il s'en fichait royalement des mages. Tout ce qu'il voulait, c'était de se débarrasser de l'enfant. Ceci l'amène à concocter un complot au verset 4. Et la première chose qu'il fait, c'est rassembler les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Nous avons passé énormément de temps à parler des mages. Beaucoup de temps la semaine dernière sur Hérode. Et maintenant j'aimerais que vous fassiez la connaissance d'autres types, les chefs des prêtres et des scribes. Il vaut peut-être mieux faire leur connaissance tout de suite, parce qu'ils apparaîtront et disparaîtront souvent de la scène tout au long du livre de Matthieu. Commençons tout d'abord par regarder les principaux sacrificateurs. Maintenant dans les évangiles, et nous allons devoir rentrer quelques pas en arrière, et je vous donnerai un arrière-plan important, pour que vous compreniez bien qui ils sont. Dans les évangiles, le mot prêtre, ou le terme prêtre est restreint. Écoutez à présent, à la caste juive qui servait dans le temple. Les juifs avaient une espèce de système de caste dans le sens des lévites. Il y avait parmi le peuple d'Israël une tribu qui avait un statut spécial. C'était les lévites, le sacerdoce constitué. En fait, si vous ne faisiez pas partie de cette famille de manière héréditaire, si vous n'apparaissiez pas dans la généalogie, alors vous n'aviez aucun droit de servir dans le temple. Ils dirigeaient quasiment le pays, parce que la politique et la théologie ne formaient qu'un dans la théocratie sur laquelle Dieu régnait. Théocratie signifie « dirigé par Dieu », exactement comme une démocratie veut dire « dirigé par le peuple ». Et il y avait donc ces prêtres, et ils dirigeaient vraiment le pays. Pourtant, parmi les prêtres, il y avait plusieurs groupes. Et j'aimerais que vous compreniez qui ils étaient. Tout d'abord, il y avait les souverains sacrificateurs, les grands prêtres. C'est le numéro 1. Et au fait, il était prévu qu'il n'y en ait qu'un seul à la fois. Et cependant, il y en avait quelquefois un paquet d'entre eux qui traînaient. Le grand prêtre était le seul prêtre habilité à faire quoi? À entrer dans le Saint des Saints, une fois par an à l'occasion du Yom Kippour. Les Juifs commémorent encore ce jour d'expiation. Le grand prêtre entre donc dans le lieu saint, à l'intérieur du temple. Loin, au fond, dans le Saint des Saints, et il asperge le sang sur le trône de grâce pour faire expiation pour les péchés de toute la nation pour cette année. Et seul le grand prêtre avait le droit de le faire, et seuls les souverains sacrificateurs étaient habilités à le faire une seule fois par an, et on accrochait des cloches à sa robe parce qu'ils avaient besoin d'entendre qu'il se déplaçait encore à l'intérieur, car s'il tentait d'entrer là-bas avec le péché dans sa vie, qu'est-ce qui se passait? Il mourait sur le champ, et quand les cloches cessaient de tinter, on savait qu'il se passait quelque chose. il fixait donc de petites cloches sur sa robe pour pouvoir l'entendre se déplacer, jusqu'au moment où il sortait. Et il n'y restait pas non plus longtemps, et il ne le faisait qu'une fois. C'était donc le grand prêtre. Maintenant, lui, en vertu de ce droit, était le gros bonnet d'Israël. Je veux dire qu'il était vraiment en haut là-bas. Il fonctionnait comme président du Sanhédrin. Et Sanhédrin signifie 70. Il y avait 70 anciens en leadership, comme un congrès ou un sénat. C'était comme pour un sénat. Il y avait 70 de ses dirigeants, et il en était le président. Cela constituait le sénat. C'était également la cour suprême juive. Ils établissaient les lois et les maintenaient, les préservaient. Ils prenaient toutes les décisions judiciaires et établissaient également toutes les lois. Ils avaient le pouvoir judiciaire et le Sénat dans une même unité, le Sanhédrin dont le souverain sacrificateur était le leader. Le grand prêtre souverain sacrificateur possédait un pouvoir politique et religieux immense. Il a, par exemple, présidé le procès de Jésus. Il a présidé les procès des premiers apôtres, Étienne et Paul. Ces hommes avaient un pouvoir énorme, un pouvoir grandiose. Et à propos, c'est très intéressant que quelquefois les souverains sacrificateurs aient été démis de leurs fonctions pour des raisons politiques. D'accord, la situation s'était détériorée. Il était ainsi possible que les Romains exigent un autre grand prêtre, d'après l'histoire autour de l'époque de Jésus, et pour une raison ou une autre. Il est souvent arrivé que les souverains sacrificateurs soient évincés de leur position et qu'un autre soit mis à leur place. Et cela est vrai au temps de Jésus. À l'époque de Jésus, le Nouveau Testament se réfère à deux personnes comme souverains sacrificateurs. L'une d'entre elles est Anne, tandis que l'autre est Caïphe. Les deux étaient grands prêtres, d'abord Anne et ensuite Caïphe. Anne a été destituée. Caïphe a pris sa place. Toutefois, Anne restait dans les parages et était appelée grand prêtre. Et il est possible qu'il y en ait eu plusieurs autres dans les coulisses. En fait, il pourrait y avoir eu des moments dans l'histoire d'Israël où il y en a eu plusieurs dans la nature, et il y avait un énorme pouvoir aristocratique et un immense prestige politique rattaché à ce titre. Ils étaient donc véritablement des maîtres incontestés. Et vous verrez quelquefois les souverains sacrificateurs, des fois c'est Caïphe, et d'autres fois c'est Anne. Anne étant dans les coulisses, le pouvoir véritable derrière Caïphe. Ensuite, il y avait un autre type de prêtre, et il est appelé le capitaine du temple. Le capitaine du temple. Il venait après le souverain sacrificateur en termes d'importance. Il était le chef de la police du temple. Israël avait sa propre force policière, et ils étaient eux aussi des prêtres. Les prêtres étaient ceux qui exécutaient les ordres et les directives pour le pays. Le capitaine du temple était donc le chef de la police du temple, et il avait le pouvoir d'arrêter les gens. Et au fait, il était désigné par le souverain sacrificateur parmi les membres de la famille de ce dernier, sa famille à lui, ou une des familles proéminentes. Autrement dit, le type qui était capitaine du temple était en fait la marionnette du souverain sacrificateur. Il avait le pouvoir d'arrêter. Ainsi, quand le grand prêtre voulait faire arrêter quelqu'un, il lui suffisait de dire au capitaine « Arrête-le, si tu ne veux pas perdre ton poste ». Il en faisait ce qu'il voulait. Et puis le troisième type de prêtre que nous appellerons les chefs des prêtres. Écoutez, chef des prêtres n'est pas un titre officiel. Les chefs de prêtres, ou principaux sacrificateurs, sont constitués de ceci, le souverain sacrificateur et tous les anciens grands prêtres qui traînent dans les parages. D'accord, le capitaine du temple et d'autres prêtres que vous pourriez appeler l'aristocratie. Tel était le groupe sélectionné des superviseurs du temple, les trésoriers de tout le temple. Et il est possible qu'il y en ait eu plusieurs parmi eux, les administrateurs du temple et tous les membres du Sanhédrin qui étaient au nombre de 70. Voici donc ceux qui constituent les chefs des prêtres, principaux sacrificateurs, le Sanhédrin, les trésoriers, ceux qui récupéraient l'argent des 13 réceptacles en forme de cloche qui se trouvaient dans la cour des femmes, où les gens mettaient tout leur argent, les administrateurs, ainsi que les souverains sacrificateurs et le capitaine du temple. Ce qui fait qu'on compte véritablement parmi les chefs des prêtres l'aristocratie et le groupe des experts et le pouvoir politique et les virtuoses d'Israël. Ils y sont tous. Cependant, derrière eux, il y avait tout un tas de ceux que nous pourrions appeler des prêtres ordinaires, des sacrificateurs tout simplement. Et soit dit en passant, ils étaient différents de l'aristocratie. Il n'y avait pas de place pour eux dans les machinations politiques et tout le reste. Il existait 24 cours, 24 groupes d'entre eux, 24 groupes de prêtres. Et pour cette raison, ils se contentaient de servir. Ils servaient dans le temple par intervalle dans l'année. Ils venaient au temple pour une semaine deux fois dans l'année. Si vous étiez un prêtre normal, vous faisiez partie de ceux qui étaient ordinaires. Alors vous viviez quelque part à l'extérieur, ou même peut-être à Jérusalem. Vous aviez un emploi. Vous étiez peut-être charpentier ou maçon. Vous travailliez avec des briques. Vous étiez peut-être berger. Vous exerciez peut-être un autre métier. J'ignore lequel, mais vous aviez un boulot. Et puis une semaine, deux fois par an, vous alliez au temple et fonctionnez comme prêtre. Ce sont des prêtres ordinaires. À ce sujet, les historiens estiment qu'il y en avait probablement 18 000 à l'époque de Jésus-Christ, et ils se sont tenus derrière l'aristocratie. Et lorsqu'il est dit dans Actes chapitre 6 au verset 7, « Je pense que c'est, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. » Je suis certain que c'est parmi ce groupe de 18 000 sacrificateurs ordinaires qu'il y a eu ces saluts. Ils ne sont appelés ni chefs de prêtres, ni rien d'autre, mais tout simplement des sacrificateurs. Ainsi donc, et à plusieurs égards, il y avait des gens de bien dans le sacerdoce. Maintenant, tout en bas de l'échelle, et même en dessous des prêtres ordinaires, il y avait tout le reste des Lévites, ceux qui tiraient leur héritage de Lévi, la base de la hiérarchie. Il y en avait également 24 groupes. Seulement, ils ne servaient pas officiellement dans le temple. Écoutez ceci. Leur ministère, c'était la musique. La musique est ce qu'on appelait le service. Quel genre de service? Voici une bonne illustration. Le Mishnah juif, qui nous apprend beaucoup sur l'histoire juive, dit qu'il constituait les policiers du temple. C'est ça. Ce qui fait qu'ils ne fonctionnaient pas vraiment dans un ministère spirituel. Ils étaient policiers. Et pourtant, ils avaient un merveilleux ministère spirituel dans le domaine de la musique, qui n'était pourtant qu'un complément au principal ministère du sacrificateur, qui consistait à offrir des sacrifices sur les autels et tout. Voilà donc tout ce qui concerne les prêtres. Au sommet de l'échelle, il y a le souverain sacrificateur et le capitaine du temple. Ensuite, les chefs des prêtres de l'aristocratie. Puis viennent les prêtres ordinaires et tout en bas, il y a les Lévites qui aidaient dans le temple et qui constituaient la police du temple. Et comme vous le savez bien, il est question d'eux plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, mais aussi dans les Évangiles, et nous le verrons en progressant. Ces gens forment l'aristocratie et des personnes ordinaires. Ce sont les agents, les fonctionnaires de tout le territoire juif. Et bien entendu, au-dessus de toute cette structure, il y avait le gouvernement romain qui s'était approprié Israël. Pourtant, quand on arrive au temps de Jésus, et c'est ce dont je veux que vous vous souveniez, au moment où vous parvenez à l'époque de Jésus, les chefs des prêtres ne sont plus qu'une bande de politiciens corrompus qui recherchent leurs propres intérêts. D'accord? Les intrigues du temple sont incroyables. Ce sont des politiciens corrompus. Et dès le départ, écoutez-moi, braves gens, dès le départ, ils sont présentés dans Matthieu 2, dans le Nouveau Testament, et ils sont en conflit avec Jésus-Christ, au début et à la fin, au moment de sa mort sur la croix, victimes de leurs mensonges et de leurs complots, de leurs subterfuges et de leurs politiques. De toute évidence, la toute première chose que Jésus a faite, c'était tout simplement lorsqu'il a commencé son ministère. Il s'est rendu à Jérusalem, est entré dans le temple, a fabriqué un fouet et a nettoyé les lieux. Et cela a mis les choses en route. Je veux dire qu'il frappait le noyau de ce qui se passait en Israël, et c'était la perversion de la vérité de Dieu. Il a évacué leur saleté du temple. Mais ces types, ces chefs de prêtres, étaient ceux qui prenaient les décisions dans le pays. Remarquez également au verset 4. On rassemble tous les chefs des prêtres et les scribes. Maintenant, c'est quoi les scribes? Les scribes étaient tout simplement des gens d'autres tribus, aucune en particulier, qui étaient des savants et des spécialistes de la loi. Ces gens avaient passé toute leur vie à étudier la loi. C'étaient des érudits de la Bible. Et j'entends bien sûr par là l'Ancien Testament. Ils n'étaient pas en possession du Nouveau Testament. Ils étaient donc spécialistes de l'Ancien Testament. Ils connaissaient les moindres détails de l'Ancien Testament. Vous savez qu'Esdras était un scribe, et il paraît qu'Esdras avait mémorisé tout l'Ancien Testament, ce qui fait qu'il était capable de s'asseoir et de rédiger un manuscrit, un parchemin de l'Ancien Testament depuis la Genèse jusqu'à la fin, en puisant tout simplement dans sa mémoire. Ces gars étaient donc à fond dans le truc. Ils étaient bons en lettres et apprenaient l'Ancien Testament. C'étaient les scribes et les érudits. Remarquez à présent que certains d'entre eux ont rejoint le parti des pharisiens parce qu'ils étaient littéralistes. Ils étaient fondamentalistes. Ils étaient légalistes. Ils croyaient en tout ce qui était dit au pied de la lettre. Par ailleurs, certains d'entre eux ont rejoint les sadducéens, qui étaient des libéraux, qui voulaient se débarrasser de plusieurs portions des Écritures. Ils réfutaient certaines choses dans les Écritures, comme la résurrection ou les anges. Il existait donc deux courants théologiques à cette époque, les fondamentalistes et les libéralistes. Cependant, les deux groupes comportaient leurs scribes et leurs érudits. Et que ce soit les scribes des pharisiens ou ceux des sadducéens, ils n'ont jamais cessé de défier Jésus, n'est-ce pas? Ils venaient et tentaient de le prendre au piège de ses propres paroles. Ainsi donc, dans Matthieu 2, et pour démarrer, nous avons les roues politiques et les cerveaux d'Israël rangés contre le Christ. Au fait, les scribes ont été appelés rabbins plus tard, et c'est la racine de ce que nous connaissons aujourd'hui comme rabbins. C'étaient des érudits de la loi. De nos jours, un rabbin ne constitue pas un descendant de la lignée sacerdotale lévitique. Nous ne savons même pas qui sont ces gens. Un rabbin est un scribe moderne. Hérode a donc appelé les politiciens et les théologiens. Ils ont dû trouver cela troublant. Ici, les dirigeants politiques n'avaient encore jamais entendu parler de ce nouveau roi, et dans ce passage, les dirigeants théologiques ignoraient eux aussi tout à son sujet. Étonnant, ils n'étaient pas tout à fait à la hauteur. En fait, ils ont été devancés par une bande de Perses, arrivés des centaines et des centaines de kilomètres de là pour venir, sous leur nez, ignorant, leur annoncer qu'un roi était né, qui n'était autre que leur Messie. J'ai des informations pour vous, braves gens, qui devriez le savoir. Ils ont été éclipsés par des païens. Ils étaient impliqués dans l'événement le plus important de tous les temps, et ne le savaient même pas. Hérode demande donc à cette aristocratie, les experts parmi les théologiens en disant, « Maintenant, où doit naître le Christ? Où est-il supposé naître ?» Il y a une note très intéressante ici qui n'apparaît pas dans le texte, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. Je suis impressionné qu'Hérode ait posé cette question, non pas parce qu'il souhaitait réellement savoir où allait naître le Christ pour prendre la connaissance de cette vérité et l'utiliser correctement, mais plutôt pour se saisir de cette information et s'en servir à ses propres fins. Et je n'ai jamais cessé d'être étonné par la manière dont certaines personnes recherchent certaines informations dans la Bible pour les utiliser à leur propre fin, et non à la manière dont Dieu l'a conçue. Ce n'est pas bien. Hérode s'est renseigné sur la parole de Dieu, pour s'en servir d'une manière pécheresse contre la volonté de Dieu. La Bible ne devrait pas être appropriée dans cette optique. Elle devrait être abordée avec un certain sens de son caractère sacré, une certaine crainte, et avec une réponse d'obéissance. Cependant, il voulait savoir, mais pas pour de bonnes raisons. Pourtant, il aurait dû savoir sans rien demander. Saviez-vous que le lieu de naissance du Messie était un secret de Polichinelle? Tout le monde le savait. Il n'y avait même pas besoin de poser de questions à ce sujet. Les gens de la foule, dit Jean 7, verset 40, ayant entendu ces paroles, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem, où était David, que le Christ doit venir. Et quelqu'un a dit, « Ça ne peut pas être le Christ, car nous savons tous que le Christ n'est pas supposé venir de Galilée. Il vient de Bethléem. » C'était une information répandue. Hérode aurait dû le savoir. Et il est possible, peut-être, qu'il l'ait su, et ait seulement voulu en avoir le cœur net. Il ne voulait pas perdre de temps. Il n'était pas vraiment sûr de lui. Il voulait une déclaration officielle du groupe des experts. C'est tellement incroyable, c'est tellement surprenant qu'il lui ait communiqué cette information. Verset 5. Ils lui dirent, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Ils lui ont cité les Écritures. Ils ont cité Michée, chapitre 5 et verset 2, et ils lui ont dit qu'il devait naître à Bethléem. C'est la parole officielle du prophète Michée. Étonnant. Ils le savaient. Et cependant, ils n'ont accordé aucune attention à ce qui s'était passé à Bethléem. Des événements qui, au moment où ceci se passe, s'étaient déroulés depuis plusieurs mois, et que certainement les bergers avaient dû raconter. Qui était Michée? Michée était prophète. Prenez quelque temps pour lire ce petit livre. Il s'agit d'un livre fantastique. Michée, laissez-moi vous parler de lui. Michée était un prophète qui a fait résonner les dénonciations comme un tonnerre. Michée était un torrent de choses jaillissait de lui. Michée n'était pas un de ces gars qui apparaissent et racontent à tout le monde combien ils sont gentils. Michée n'était pas une personne qui affirme, mais plutôt quelqu'un qui dénonce. Michée a tonné contre les mauvais dirigeants de cette époque, et après avoir pulvérisé les faux dirigeants, il a regardé en bas à travers les âges, et il a dit, « Un de ces jours, il viendra un véritable dirigeant. Un de ces jours, il y aura un dirigeant puissant. Un de ces jours, le roi, le Messie. Et vous le saurez parce qu'il naîtra dans une petite ville, la ville de Bethléem, jadis appelée le pays où David a fait sa demeure. La voix de Michée est la voix d'un prophète. La voix d'un prophète qui a exprimé le sanglot d'une nation. Une nation qui pleurait et gémissait dans l'attente de son roi. Et Michée a dit, « Il viendra. » Il viendra et tous les faux dirigeants seront mis de côté, et il sera le dirigeant véritable, et il viendra à Bethléem. Et Matthieu rapporte que les chefs des prêtres et les scribes ont dit, « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Et ils poursuivent en le citant. J'aime ce que fait Matthieu. Il ajoute une petite touche à la fin du verset. « Et toi, Bethléem, et il se pourrait bien, je n'en suis pas très sûr, et je vais donc éviter d'être dogmatique. » Mais il se pourrait bien que les spécialistes de la loi, ou bien les chefs des prêtres et les scribes, se soient contentés de lire le verset 5, et que Matthieu ait ajouté le verset 6. C'est peut-être Matthieu qui a introduit Michée 5, et je le lis parce qu'il y a un supplément à la fin du verset qu'on ne trouve pas dans Michée 5, et qui n'aurait certainement pas pu venir des principaux sacrificateurs et des scribes, mais plutôt de Matthieu. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira. Et puis Matthieu introduit un chef, qui pètera Israël, mon peuple. Le mot dirigé qui se trouve dans ce passage est un terme grec qui signifie berger. Ce n'est pas dans Michée. Et vous savez ce qui est si magnifique. Les écrivains du Nouveau Testament, écoutez-moi à présent. Chaque fois qu'ils citaient l'Ancien Testament, les auteurs du Nouveau Testament n'avaient pas l'habitude de le faire textuellement. Vous savez pourquoi? Parce que les écrivains du Nouveau Testament étaient également inspirés par Dieu et avaient le droit de modifier et d'amender ces choses, conformément à ce que l'Esprit de Dieu leur révélait à ce moment-là, afin de prendre une portion de cette vérité de l'Ancien Testament et de l'ajouter à cette chose spéciale que l'Esprit de Dieu voulait pour cette époque du Nouveau Testament. Et il y avait un merveilleux message dans ce que Matthieu a dit. Ce que Matthieu impliquait réellement est ceci. Il vient un dirigeant, un gouverneur, qui pètera mon peuple Israël. Ce qu'il disait véritablement, c'était « Comment voulez-vous changer un Hérode contre un berger? Comment voulez-vous échanger un démagogue? Comment voulez-vous échanger un assassin? Comment voulez-vous échanger un conspirateur? Comment voudriez-vous échanger un type qui est plein de haine et qui tue contre un berger qui aimera et prendra soin de son troupeau? Voyez, une belle chose !» Il connaissait la différence. Ainsi, Matthieu est en train de citer, je pense que c'est Matthieu au verset 6. Je pense que les principaux sacrificateurs et les scribes ont dit, à Bethléem en Judée, car c'est ce qui est écrit par le prophète. Et puis Matthieu ajoute la suite. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Vous dites, que voulez-vous dire par là? Écoutez, chaque hébreu du monde, chaque juif du monde, et permettez-moi de tirer ceci au clair dès le départ. J'ai un grand amour pour Israël, croyez-moi. J'y ai été plusieurs fois, et il y a quelque chose au sujet de cet endroit qui attire mon cœur même quand je n'y suis pas. Et j'ai beaucoup d'amour pour les Juifs. Vous savez que tous les meilleurs amis que j'ai à travers le monde sont Juifs. C'est vrai. Jésus, Paul, Pierre, David, Moïse, mince, absolument tous. Je passe beaucoup plus de temps avec les Juifs qu'avec un quelconque autre peuple. Je passe 6 heures chaque jour dans mon bureau. Et je lis tout simplement les écrits de ces Juifs encore et encore. Matthieu, Juif. Oh, je suis également en train de développer de l'amour pour lui. Voyez-vous, je n'ai aucun problème avec ça. J'essaie seulement de vous dire ce que dit la parole de Dieu. Et chaque juif de l'histoire est confronté à Michée 5, verset 2. Et le prophète a dit qu'il allait naître à Bethléem. Jésus est né à Bethléem. Qu'allez-vous faire de ça? Vous voulez entendre autre chose? Même les principaux sacrificateurs et les spécialistes de la loi, les scribes, les principaux politiciens et les principaux théologiens ont dit qu'il devait naître à Bethléem, comme l'a déclaré Michée. Écoutez-moi à présent. Quand certains juifs s'amènent aujourd'hui et disent « Eh bien, le Messie n'est pas une personne, mais plutôt une attitude. » Je vous dis, « Eh bien, ce n'est pas ce qu'on pensait à l'époque de Jésus. Les rabbins anciens ne voyaient pas les choses de cette manière. Ils avaient dit qu'il s'agissait d'une personne, parce qu'une attitude ne peut pas naître à Bethléem, mais une personne si. Ou alors ils disent que l'idée du Messie est l'idée de la perfection du règne juif. La perfection du royaume juif ne peut pas non plus naître un jour donné à Bethléem. Le Messie est une personne, un individu, et non une nation ou une attitude. Et sa naissance devait avoir lieu à Bethléem. Et écoutez, si Jésus n'est pas le Messie, alors de quoi parle Michée? De quoi est-ce que les spécialistes de la loi et les chefs des prêtres parlent? Et de quoi est-ce que Matthieu, qui était un juif dévoué, parle? Le Sanhédrin dit que c'était Bethléem. Le prophète Michée a dit que c'était Bethléem. Matthieu dit que c'était Bethléem. C'était Bethléem. Et l'histoire tout entière s'accorde à reconnaître que le Messie devait naître à Bethléem, exactement là où est né Jésus. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les Romains ont dû publier un décret pour amener Joseph et Marie à s'y rendre, pour que Jésus puisse y naître. Il a mobilisé tout le monde pour accomplir sa volonté. C'est impressionnant. Ces orthodoxes légalistes, dotés d'une connaissance intellectuelle parfaite, n'ont jamais été touchés dans leur âme. Si seulement je pouvais vous parler du coup fatal du légalisme. Ils sont donc indifférents, aussi bien les chefs des prêtres que les scribes. Au fait, ils ne sont pas restés indifférents bien longtemps. Plus tard, ils sont devenus des conspirateurs, meurtriers, pleins de haine et de venin. Et pendant tout ce temps, depuis l'indifférence de Matthieu 2 jusqu'au complot et au meurtre de la fin de l'Évangile selon Matthieu, pendant tout ce temps, ils connaissaient parfaitement bien toutes les prophéties que Jésus-Christ était en train d'accomplir. Et pourtant, ils ont tout rejeté en connaissance de cause. Et Jésus leur a même rappelé que tout ce qu'ils avaient à faire, c'était examiner les Écritures, dont ils étaient supposés être des spécialistes. Dans Jean 5, au verset 39, il dit « Sondez les Écritures, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous êtes des experts. » Nous voyons donc immédiatement. Observez à présent ceci. Nous voyons immédiatement qu'ils sont divisés en trois groupes. Groupe numéro 1, suivant leur réaction à l'égard de Jésus-Christ. C'est le groupe qui pouvait être identifié comme haine et hostilité. La haine et l'hostilité. Hérode craignait que ce petit bébé ne vienne interférer avec sa vie. Il était jaloux et apeuré. Il ne voulait pas que ce petit bébé s'introduise dans sa vie, en bouleversant la hiérarchie et en changeant les choses. Par conséquent, il a cherché à l'éliminer. Et certaines personnes ont continué de voir les choses de cette manière 33 ans après cela, et ils l'ont tué. Et vous voulez savoir quelque chose? Certaines personnes éprouvent ces mêmes sentiments aujourd'hui. Jésus constitue une interférence dans leur vie. Il les gêne, il frustre leurs plans. Et s'il le pouvait, il l'éliminerait. Et Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, « Si le monde m'a haï, alors ne soyez pas surpris qu'il ait de la haine pour vous. » Et quand vous sortirez, ils vous haïront, et vous mettront en prison, et ils vous tueront en pensant servir Dieu. Il y a donc la haine et l'hostilité. Deuxième catégorie, et la haine et l'hostilité sont représentées par Hérode. La seconde catégorie, c'est ce que j'appelle les indifférents. Les indifférents. Et les indifférents sont représentés par les chefs des prêtres et les scribes. Ils étaient tellement préoccupés par leur apparence de piété. Ils étaient tellement absorbés dans leurs intrigues politiques et leurs jeux de pouvoir. Ils étaient tellement absorbés à se faire de l'argent au temple et à tirer profit aussi vite qu'ils le pouvaient, aux dépens du peuple. Ils étaient tellement perdus dans leur religion que cela leur importait peu qu'ils soient nés. Ils étaient tout simplement indifférents. Et il y en a plusieurs comme ça aujourd'hui. Et je pense toujours au livre des Lamentations, où Jérémie, Dieu le bénisse, crie à Israël et dit « N'êtes-vous pas touchés, ô vous tous qui passez? Je veux dire, comment parvenez-vous à être indifférent à ceci? C'est peut-être le pire. Je pense toujours au même poème de Studer Kennedy, qui dit « Quand Jésus est arrivé à Golgotha, ils l'ont suspendu à un arbre, ils ont enfoncé de grands clous, ils ont enfoncé de gros clous dans ses mains et ses pieds, et fabriqué le calvaire. Ils l'ont couronné avec une couronne d'épines. Rouge et profonde étaient ses blessures, car c'étaient des jours cruels et impitoyables, et la chair humaine ne valait rien. Lorsque Jésus est arrivé chez nous à Birmingham, ils l'ont tout simplement ignoré. Ils n'ont jamais touché à un seul de ses cheveux. Ils se sont contentés de le laisser mourir, car les humains se sont adoucis. Ils ne voulaient pas le faire souffrir. Ils se sont contentés de descendre la rue et de le laisser sous la pluie. Et pourtant, Jésus a crié, « Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et malgré tout, la pluie d'hiver est tombée et l'a trempé jusqu'aux os. Les foules s'en sont allées, laissant les rues désertes. Et Jésus s'est effondré contre un mur et a réclamé le calvaire en criant. Studer Kennedy est en train de dire qu'il préférerait la haine à l'indifférence. Et troisièmement, il y avait le culte d'adoration présenté par qui ? Les mages. Et c'est toujours ainsi avec Jésus. Certains sont hostiles, d'autres sont indifférents, et d'autres encore adorent et rendent un culte. Tels sont l'arrivée et l'agitation. Regardons la scène du verset 7. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Cette fois, il s'est dit qu'il valait mieux tenir une réunion secrète. S'il tentait d'avoir une autre rencontre officielle avec ces types, tout le monde allait se douter qu'il se passait vraiment quelque chose. Alors, il a tenu une réunion privée, et il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Ici, braves gens, j'appelle ceci de la comédie, parce que ceci doit être l'une des plus grandes scènes d'hypocrisie de toute la Bible. Ce type est tellement faux, et les mages ne s'en doutent pas. Ils viennent de l'Est et ne savent pas ce qui est en train de se passer. La première réunion était publique, mais cette rencontre va être secrète parce que l'esprit d'Hérode s'est éveillé. Il a un plan sournois, le gros mensonge, et les principaux sacrificateurs, tout comme les spécialistes de la loi, le sauraient. Les mages n'en sauraient rien, et ce serait vraiment subtil. Il n'a pas dit « quel âge a l'enfant », mais plutôt « quand est-ce que l'éclat est apparu ?» Et je pense qu'il a agi ainsi pour faire semblant de s'intéresser à l'astrologie et leur intérêt pour l'astronomie. Parlez-moi de l'étoile. Vous connaissez bien les étoiles, parlez-moi. Quand est-ce qu'elle est apparue? Comme si c'était l'astronomie qui l'intéressait. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était de tuer le petit bébé. Et au fait, c'est intéressant que l'étoile ne soit plus visible à ce moment-là. Ils l'avaient vue dans l'Est, elle a disparu, et ils sont partis, et sont arrivés à Jérusalem, et ils ne l'ont plus vue. Quand est-ce que l'étoile est apparue? Il est dit qu'il s'est enquis diligemment auprès d'eux. Et le terme en grec est exactement, je veux dire, « Donnez-moi le jour, les gars, vous voulez bien. Je veux savoir quand ce bébé est né. » Et nous ignorons ce qu'ils ont répondu. Mais de toute évidence, Hérode s'est dit qu'en tuant tous ceux qui avaient moins de 2 ans, il l'aurait à coup sûr. Il lui aurait peut-être dit que cela remontait à 6 mois. Et s'est dit, bon, par mesure de sécurité, je vais éliminer tous ceux qui ont 2 ans et moins. Des fois que l'étoile se serait montrée avec un petit retard. Et en allant au chapitre 2, verset 16, il est dit qu'il les a tous abattus. Sur quelle base? À partir de 2 ans et en dessous. Verset 16. Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Il a voulu savoir. Quel hypocrite, verset 8. Puis il les envoya à Bethléem en disant, une fois qu'il a eu l'information qu'il voulait, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. C'est très moche, n'est-ce pas? Il s'agissait du Fils béni, glorieux et majestueux de Dieu. Et le voici, il s'agit du plus fou de tous les fous. Au lieu de se jeter à ses pieds, il veut lui ôter la vie. Quel imbécile! Il allait tuer le Sauveur, l'unique Sauveur. C'est ainsi que les mages sont inconsciemment devenus des outils de destruction du Messie, en pensant se rendre utile. J'aime la subtilité de Matthieu. Je viens juste d'y penser. La subtilité de Matthieu. Il met à nouveau l'accent sur le fait que Christ est roi, non seulement par sa lignée, non pas uniquement par les hommages, mais également par son rejet. S'il n'avait pas été roi, pensez-vous que sa naissance aurait mis ce roi en colère? Non. Il est roi, et Matthieu insiste là-dessus par tous les moyens possibles. Ainsi donc, l'arrivée, l'agitation, la comédie et à présent l'adoration. Le voyage des mages arrive à son terme au verset 9, et cela se verra très vite. Vous vous souvenez de ceci, c'est tellement beau. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et voici leur vieil ami l'étoile. Quelle journée de joie! L'étoile est là, verset 10. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils avaient vu cette chose lorsqu'ils étaient à l'est. Elle avait disparu. Ils étaient venus jusqu'à Jérusalem, et ils n'avaient pas su avec précision où aller, ni quoi faire ensuite. Et voilà que la Shekinah de Dieu était à nouveau là, et ils savaient qu'ils étaient sur la bonne voie. Au fait, il y a une note intéressante au verset 9. L'étoile qu'ils avaient aperçue dans l'Est, littéralement, il est dit en grec « l'étoile qu'ils avaient vue se lever ». L'étoile qu'ils avaient vue se lever. Autrement dit, l'étoile, je pense, qui n'avait jamais existé, et qu'ils ont vu venir à l'existence. Cela signifie beaucoup plus qu'apparaître tout simplement dans cette zone. L'étoile qui est apparue en se levant. Et voici la Shekinah qui apparaît à nouveau. Et maintenant ils ont vraiment compris. Ils ont reçu une révélation divine en forme de signe. Et ils ont reçu la parole de Dieu. Michée 5 au verset 2. Et ces deux choses ont convergé à Bethléem. Et se sont dirigées directement au-dessus d'une maison. C'est pour cette raison que je dis qu'il ne devait pas s'agir d'une vraie étoile. Parce qu'il serait vraiment difficile pour une véritable étoile de descendre au-dessus d'une maison sans consumer la terre tout entière. La Shekinah de Dieu est descendue plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Elle est descendue tout à fait au-dessus de cette maison. Et ils étaient tellement contents. Verset 11. Ils entrèrent dans la maison. Et au moment où cela se passe, ils sont dans une maison et non plus dans une étable. Le bébé est désormais âgé de quelques mois. Et ils ont trouvé un endroit où ils peuvent rester, en attendant de reprendre des forces et de se rendre partout où Dieu allait bien vouloir leur demander d'aller, parce qu'ils savent bien qu'il s'agit d'une nouvelle vie pour eux. Désormais, ils ont le Fils de Dieu. Ils ne peuvent pas se permettre de rentrer, faire comme bon leur semble, à moins que Dieu ne le leur dise. Et ils attendent. Ils étaient donc dans la maison, et, en entrant dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère. Et au fait, chaque fois que Marie et le bébé sont mentionnés au verset 11, verset 13, verset 14, verset 20 et verset 21, le bébé est toujours mentionné en premier. La préoccupation porte sur l'enfant. Charles Wesley le formule ainsi. Voilé dans la chair, la divinité voit. Saluez le divin incarné. C'est exact. Ils sont donc entrés. Ils virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ne l'adorèrent pas, elle. Remarquez cela, s'il vous plaît. Ils ne les ont pas adorés, eux. Ils l'ont adoré, lui. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré en tant que roi. Ils ont fait ce qu'on fait à l'égard des dieux. Ils sont tombés sur leurs genoux et l'ont adoré. Et l'adoration, bien-aimé, ne revient qu'à Jésus-Christ. Elle ne sied qu'à Dieu seul et à personne d'autre, parce que personne d'autre n'en est digne. Vous souvenez-vous de ces gens qui ont essayé d'adorer les apôtres? « Non, ne m'adorez pas, a dit Paul. Ils ont tenté d'adorer Pierre à Césarée. Non, ne m'adorez pas. Jean a voulu adorer un ange dans l'Apocalypse. Non, a-t-il dit, ne fais pas ça. Ils adorent dans ce passage, et il n'y a aucune réprimande, rien du tout. Vous êtes en train de faire ce qui est convenable. Personne ne leur a dit, levez-vous. Oh non, il s'agissait de Dieu. C'était le roi. Ils ont bien agi. Oh, je vous dis. » Je pense que quelque part, en cours de route, nous avons perdu l'art d'adorer au sein de l'Église américaine. Vous savez ces pasteurs que je vous ai présentés ce matin, qui venaient d'Afrique du Sud. C'était intéressant. Ils ont fait plusieurs commentaires intéressants sur l'Église américaine. C'est la toute première fois qu'ils viennent ici. Et l'un d'eux, nous étions en train de déjeuner un jour, et ils m'ont dit, « Tu sais, John, ont-ils dit, il nous semble qu'il y a deux problèmes dans l'Église américaine telle que nous la voyons. » Et j'ai dit quoi? Cela s'est passé avant même qu'ils n'aient pris part à nos services, et ils se contentaient de partager leur cœur. Et j'ai dit quels sont-ils? Et ils ont dit, premièrement, ils ne me semblent pas avoir une doctrine théologique. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Ils font des choses, ils ont des programmes, des sentiments et des sensations. Ils ne savent pas ce qu'ils croient. Deuxièmement, ils ne savent pas ce que c'est l'adoration. Je me suis dit qu'il s'agissait d'une remarque très intéressante. Vous savez, nous sommes des personnes tellement affairées. Vous savez que nous conduisons un gars au salut, et immédiatement, mince, il faut l'introduire dans le ministère. Vous savez que nous entendons l'expression « sauver pour servir ». Je déteste cela. « Sauver pour servir ». Lorsque vous allez à un séminaire pastoral et qu'il prêche en disant « Nous voulons à présent vous dire qu'une fois que vous avez conduit ce gars au salut, attirez-le à l'église, et une fois qu'il a rejoint l'église, mettez-le au travail. Amenez-le à travailler pour le Seigneur. » C'est complètement ridicule. La seule raison qui devrait pousser à servir Dieu devrait être le débordement de votre adoration. Vous savez, je vais vous dire honnêtement, je n'applique pas ça parce que cela me gêne. C'est pour cette raison que vous n'allez pas. Vous viendrez à grâce, et vous pourriez venir ici pendant longtemps, sans qui que ce soit vous aborde et vous dise « Êtes-vous déjà membre de l'Église ? Et si oui, êtes-vous impliqué dans un groupe ?» Vous dites « Attendez une minute, je suis, vous savez sur quoi je travaille. Vous voyez, j'essaie seulement d'adorer le Seigneur. Je ne, vous savez, que je ne regarde même pas mon ministère comme sauvé pour servir. Je ne le fais pas. Je suis sauvé pour adorer. Et du débordement de mon adoration, je crois que je serai une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Je serai, je ne suis même pas, vous savez quelque chose, je pourrais vous choquer. Je ne prépare même pas des sermons pour vous, je ne fais pas ça. Je ne vais pas en me disant « j'ai ce texte, je crois que je vais en faire un sermon ». Non, je prends un texte et l'aborde de cette manière. Que puis-je apprendre sur la gloire de Dieu à partir d'ici, et après que j'ai passé toute une semaine à l'étudier et à y voir Dieu, et j'espère me jeter à ses pieds, à me prosterner dans la louange et à me prosterner dans l'adoration. De ce débordement, un sermon vient très facilement. Nous sommes sauvés pour l'adorer, c'est la première des choses. Si nous avons perdu le « vous savez », il paraît que dans certaines églises dans lesquelles la Bible est véritablement enseignée, il semble que les gens adorent l'enseignement au lieu d'adorer Christ. C'est tellement triste. Bon, il faut que je me dépêche là. Ai-je une heure à parler ? Lancez, ça c'est bon. De toute façon, j'aurai terminé dans une minute. Ils ont adoré. Vous savez, si, sans vouloir vous ennuyer, vous savez que Dieu ne recherche pas des chantres célèbres et des ouvriers célèbres et des célébrités dans tous les domaines. Il ne cherche que des adorateurs qui le louent et l'adorent. Je me souviens que Fred Barshaw disait, je crois, il a écrit dans notre petit manuel que nous déshonorons Dieu en essayant. J'ignore qui l'a dit en premier, c'était peut-être lui. Nous déshonorons Dieu en essayant de le servir sans véritablement le connaître. Car alors, vous savez ce qui se passe. Eh bien, notre service, notre ministère s'en trouve complètement endommagé. Pourtant, lorsque nous servons à partir du débordement de l'adoration, il est au contrôle du service pour sa gloire. Ils ont donc adoré, et ils ont adoré en donnant, et c'est une merveilleuse manière d'adorer. Et vous dites, « Oh voilà qu'on va casser l'esprit d'adoration pour prélever une offrande. » Cela ne casse en rien l'esprit d'adoration. Il y a longtemps de cela, je voyais les choses de cette manière. Comment pouvions-nous prélever les offrandes d'un service, parce que c'est tellement rustre? Et un jour j'ai compris qu'ils étaient venus adorer. Comment ont-ils adoré? Ils n'ont pas ramené un gros organe pour faire « hum ». Ils ont fait ceci. Ils n'ont pas traîné un vitrail à l'intérieur pour l'observer. Ils n'ont pas grimpé sur la colline pour le faire. Comment adorez-vous? D'une manière très concrète. Ils ont adoré à travers quoi? Le don. Le don. L'expression de la louange. Qu'est-ce qu'ils ont donné? Ils ont donné de très bonnes choses. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Des biens fascinants. L'or. Je n'ai pas besoin d'en parler. Vous savez ce qu'est l'or? L'or était quelque chose d'extrêmement, extrêmement précieux, et ça l'est toujours. À ce propos, l'or était uniquement utilisé pour les meilleures choses. Il a largement été employé dans la construction du temple, et tout ce qu'il contenait. Lisez 1 roi, 5 à 7, 2 chroniques, 2 à 5. L'or a été utilisé. Il était porté en bijoux, et ceux qui étaient vraiment riches l'employaient comme ustensile. Précieux. Qu'en est-il de l'encens? De l'encens pur. Une incision a été faite accidentellement dans l'écorce d'un arbre qui pousse en Arabie. Il en est sorti de la sève. Et cette sève était blanche. C'était de l'encens. En fait, je pense que le terme hébreu employé à l'origine dans l'Ancien Testament constitue l'idée que cette sève blanche, et elle avait plusieurs usages. Elle était utilisée. Évidemment, c'était parfumé. Elle dégageait un parfum. Elle avait un parfum. Elle était utilisée lors de l'offrande du repas dans Lévitique 2. Tandis que l'odeur s'élevait symboliquement vers Dieu. C'était utilisé lors des mariages, dans Cantique des Cantiques. Je veux dire qu'une fois que vous étiez prêt pour votre mariage, vous mettiez ce truc et vous sentiez vraiment bon. Vous savez, le parfum est un vieux truc, de l'encens. Il y avait ensuite la myrrhe, un petit arbre en Arabie, un tout petit arbre. Il produisait également un beau parfum. C'était de la myrrhe. Ils l'ont utilisé dans les proverbes pour parfumer le lit, pour parfumer les vêtements. C'était la première interdiction, l'interdiction de base. C'était la myrrhe de base, la myrrhe de 5 jours. De toute façon, d'après Esther chapitre 2, tandis qu'Esther était apprêtée pour rentrer auprès du roi, elle a mis de la myrrhe pour sentir bon. Et la myrrhe était également utilisée dans la même procession nuptiale qui employait l'encens. Mélangée au vin dans Marc 15, elle a servi comme anesthésie, et elle a été utilisée dans Jean 19 pour préparer le corps de Jésus pour l'enterrement. Il y avait donc de l'or, très précieux. Il y avait de l'encens, une belle encens qui sentait bon. Et il y avait de la myrrhe, un parfum, et un merveilleux baume. La signification allait, bien sûr, au-delà de l'usage naturel de chaque présent. C'était tout simplement de magnifiques présents, de très très grandes valeurs. En fait, je crois personnellement que cette pauvre famille, Joseph et Marie, qui n'avaient rien, d'autant plus que Joseph avait été enlevé de son travail. Rappelez-vous que Dieu les a envoyés en Égypte pendant quelque temps. Ils n'avaient aucun moyen de subsistance en Égypte. Il aurait eu beaucoup de mal à s'établir dans une culture étrangère. Et je suis certain que l'or, l'encens et la myrrhe ont été les ressources. Le compte bancaire qui a été utilisé pour soutenir la petite famille à leur début, et avant qu'ils ne reviennent finalement à Nazareth, où il a pu reprendre son ancien travail. C'était leur gagne-pain. C'était leur source de revenus. Quelque chose de précieux. Permettez-moi toutefois de faire un pas en avant tout simplement en concluant. L'or constitue un présent qu'on offre au roi. L'or est associé à la royauté. Lorsque Joseph était en Égypte et qu'il était vice-régent, après le roi, il est dit qu'il a reçu une chaîne en or. Daniel a également reçu de l'or tandis qu'il occupait le poste qui vient après celui du roi. Dans la Bible, les rois avaient des couronnes en or, des sceptres d'or. Salomon avait de l'or partout. Et une description de Salomon dans 1 roi 10 mentionne de l'or 10 fois. L'or était un cadeau qu'on offrait à un roi. Et qu'est-ce que Matthieu est en train de nous dire? Jésus était quoi? Roi. Il est roi. Il est roi. Et nous rencontrons Jésus dans sa royauté. Quand vous venez à Jésus, écoutez-moi s'il vous plaît. Quand vous venez à Jésus, comme je l'ai dit la dernière fois, vous êtes un salutiste de seigneurie. Souvenez-vous de cette expression. Vous arrivez en tant que sujet d'un roi, d'un seigneur. Nelson, le grand amiral, a toujours traité ses adversaires vaincus avec beaucoup de bienveillance et de courtoisie. Après l'une de ses victoires navales, l'amiral vaincu a été amené à bord du navire de Nelson et jusqu'au pont de Nelson. Et connaissant la réputation de Nelson au sujet de la courtoisie, cet amiral vaincu a vraiment essayé d'en profiter et il s'est avancé sur le pont, le bras tendu pour lui serrer la main, comme à un égal. Et il est dit que Nelson a gardé sa main contre lui. Et il a dit, « D'abord votre épée, monsieur, et ensuite votre main. » Et c'est ainsi. Avant de devenir les amis du Christ, nous devons d'abord être sujets de sa seigneurie. Ils sont donc venus, et ont dit qu'il est roi. Ils l'ont dit avec un présent. Et puis, il y avait de la myrrhe. Qu'est-ce que la myrrhe? La myrrhe est un présent destiné à un mortel. C'est du parfum pour rendre la vie un peu moins odorante, pour rendre l'enterrement moins répugnant. La myrrhe était un présent qu'on offrait à un homme mortel. Et il était humain. En fait, la myrrhe était plus spécialement le don qu'on faisait à quelqu'un qui allait mourir. Il était humain, et il allait mourir. Dès le départ, c'était clair qu'il allait mourir. Avez-vous déjà vu cette photo faite par Holman Hunt, qui a peint de jolies images de Jésus? Il a une image de Jésus présentée comme un petit garçon dans l'atelier de menuiserie, tandis que le soleil se couche à l'ouest. La maison faisant face à l'Occident, et le petit garçon Jésus se tient à la porte. Et tandis que le soleil brille à travers la porte, il étire ses bras, comme le ferait un petit garçon, après une dure journée passée à aider son père, et le soleil projette sur le mur arrière de la maison une énorme croix. C'était sa manière, à Holman Hunt, d'indiquer qu'il était né pour mourir. Il était mortel. C'était clair depuis le départ. Ainsi donc, un don pour un roi. Et un don pour un être humain. Il était les deux. Et il y avait l'encens. Le grand savant ancien, un père de l'Église primitive, dont le nom était Origine, a dit, Il s'agit d'un présent destiné à Dieu. L'encens fait référence à la divinité. L'encens était toujours offerte à Dieu. C'était un parfum qui montait vers Dieu. Dans l'Ancien Testament, il était conservé à l'avant du temple, dans une pièce spéciale, et il était pris et ajouté aux offrandes. Il était aspergé pour que la bonne odeur s'élève vers Dieu. Et dans Exode 30, il est dit que l'encens est pour Dieu et non pour les humains. En fait, j'aime cela. Dans Ézéchiel 16 au verset 18, Dieu dit « C'est mon encens, c'est mon encens ». C'était également employé dans le lieu très saint. Et ils viennent donc, et avec l'or ils disent « Il est roi ». À travers la myrrhe ils disent « Il est humain ». Et avec l'encens ils disent « Il est Dieu ». Maintenant, ils ne savaient peut-être pas qu'ils disaient toutes ces choses, mais c'est la belle symbolisation qui en découle. Ainsi donc l'arrivée et l'agitation, et la comédie et l'adoration, et finalement, verset 12, l'évitement. Et Dieu a pris le contrôle de ces merveilleux mages. Il voulait qu'ils rapportent le message du roi en Perse, le message du nouveau venu, le Messie, celui qui est oint. Et Dieu les a donc avertis en songe, leur demandant de ne plus retourner auprès d'Hérode, lui parler du bébé. Et ils sont rentrés dans leur pays en empruntant un autre chemin. Dieu se préoccupe donc des mages, et Dieu prend soin du Sauveur. Et nous verrons la prochaine fois comment Dieu prend soin de la petite famille tandis qu'ils se rendent en Égypte. Laissez-moi conclure avec ceci. Écoutez, voulez-vous? J'ignore à quel groupe vous appartenez ce soir. C'est vous-même qui le savez. Êtes-vous dans le groupe d'Hérode, hostile et amer et haineux à l'endroit du Christ? Êtes-vous dans le groupe des principaux sacrificateurs et des scribes, non engagés et indifférents? Ou alors êtes-vous dans le groupe des mages? Êtes-vous en rang pour entrer adorer? Tenez-vous en main l'or qui convient à un roi, et la myrrhe qui sied un homme mortel, et l'encens qui est indiqué pour Dieu. Le voyez-vous comme Dieu, homme et roi? Prions. Père, nous te remercions ce soir. Cela fait longtemps que nous sommes partis, et cependant c'est allé si vite à cause de la fascination de la majesté de Jésus-Christ. Waouh! Père, se contenter de prendre quelques heures le jour du Seigneur pour plonger en profondeur dans la richesse de ta parole, est si rafraîchissant. Au milieu de toutes nos pensées mondaines, je prierai, Seigneur, pour quiconque serait présent, qui pourrait se trouver dans le groupe d'Hérode, haineux et hostile. Je pleure pour ceux qui se trouvent en position d'indifférence, peut-être même davantage, parce qu'ils n'ont pas la moindre considération pour lui. Ils n'y pensent même pas, et peut-être bien que c'est ce qu'il y a de pire. Et je me réjouis tellement pour ceux parmi nous qui constituent des hommes sages, des femmes sages, des jeunes gens sages, et qui se sont inclinés très bas à ses pieds, qui ne sont plus des pieds d'un bébé, mais des pieds percés, et qui apportent des présents dans leurs mains, la reconnaissance qu'il est le Dieu homme, le roi, et qu'ils se soumettent à lui. Père, puissions-nous t'adorer plus que tout, et que de ce débordement découle notre service. Au nom du Christ, amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'étude de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.